Le nouveau bulletin d'information de l'association IDES Yeux Demain numéro 45 hiver 2018 est disponible. Bonjour Sandrine Desmarais.
Bonjour Roland.
Ça va bien, en pleine forme?
Impeccable.
Tu es vice-présidente de l'association.
Oui, bah, je suis adhérente de l'association.
Bonjour Luc Pasquier.
Bonjour Roland.
Tu es président de l'association Yeux Demain.
Oui, encore aujourd'hui.
Ça fait combien de temps Luc?
Ça va faire 4 ans.
Premier article en page 3 dans le cadre d'In en transition, rénovation de l'habitat. Où en est le projet de plateforme de rénovation pour les lieux, Sandrine ou Luc?
Alors avant que Luc en parle un peu plus précisément, je voulais vous dire que ce projet plateforme de l'habitat, en fait, il est né d'une démarche citoyenne sur l'île-Dieu en relation avec la mairie. C'est vrai qu'il y a des groupes qui phosphorent, qui se creusent la tête autour de la transition énergétique et sociale. Bon, c'est un peu un gros mot, mais c'est comment en fait mieux vivre ensemble sur l'île, trouver des solutions qui prennent soin de la planète et des êtres humains, de trouver des solutions concernant entre autres l'énergie, la mobilité. Donc il y a des groupes de citoyens à l'Île-Dieu qui travaillent sur les thématiques donc, de l'habitat, de l'énergie, de la mobilité, de la sensibilisation, parce que c'est important aussi de savoir comment on peut partager toutes ces idées. Donc c'est super parce que la plateforme énergétique, c'est la première concrétisation de ce travail d'équipe, hein, avec des personnes motivées, convaincues et à l'équipe de la mairie.
C'est des groupes ouverts à tous.
Ah oui, vous venez, tout le monde est invité à participer à ces groupes, faire part de ces témoignages et aussi de qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution, quoi.
Pour rentrer dans un groupe, il faut contacter Samuel Le Goff.
Voilà,
à la mairie de l'Île-Dieu.
À la mairie, ouais.
Rénovation de l'habitat, Luc.
Alors, l'un des groupes qui s'appelle le groupe bâtiment, qui regroupe des gens du bâtiment, des associatifs, des élus aussi.
Mmh. Et il y a des professionnels, élus des élus et des bénévoles.
Des bénévoles, oui, mmh. Voilà. Hein. Donc, on a travaillé depuis un certain temps. Et
ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet?
Ça va faire troisième année. Hein. Ça va faire troisième année. On s'est rendu compte qu'il y avait un dispositif qui s'appelait la plateforme de rénovation de l'habitat, plateforme régionale de la rénovation de l'habitat. Nous avons envoyé il y a quelque temps un courrier au maire pour lui dire qu'on souhaiterait bien, au vu des travaux que nous avions faits, que cette plateforme se mette en place. Mmh. Il y a eu un accueil extrêmement favorable. Du coup, il y a eu une préétude qui a été, enfin une étude plutôt, on va dire, qui a été une phase 1, qui a été lancée pour voir, analyser de façon très claire un certain nombre d'éléments, l'amélioration thermique de l'habitat, et donc la réduction de la consommation d'énergie des particuliers, augmenter bien sûr le nombre de rénovations, améliorer la qualité de cette rénovation, et puis pourquoi pas aller vers petit à petit une autonomie de l'île-Dieu sur un certain nombre de fournitures d'énergie.
Ça, c'est possible, l'autonomie pour l'île-Dieu?
Total, non.
Non, on est bien d'accord.
Mais on en parlera tout à l'heure avec le parc photovoltaïque, par exemple. Bon, il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettraient d'aller vers cette autonomie. Et notre association milite là-dessus.
L'association Yeux Demain.
Oui.
Si j'ai bien compris, c'est un bureau unique pour tout ce qui est rénovation.
Alors, voilà. L'idée est la suivante, et c'est assez génial, parce que quand on a un problème de rénovation, d'abord on regarde son portefeuille, et puis on va au plus court enfin, de ce que l'on peut faire, etc.
Là, il y a pas mal d'aides tout de même, c'est pas simple de se retrouver dans toutes ces aides.
Tout à fait, c'est assez compliqué. Du coup, il y a une sorte de bureau unique, il y a une personne qui renseigne, et autour de cette personne, il y a les architectes, il y a les professionnels, il y a les services publics qui apportent des aides. Mm-hmm. Et du coup, d'une rénovation très faible, par exemple, remplacer
plutôt
les
basique,
fenêtres,
ouais, le chauffage, oui.
Ouais, on peut aller vers une rénovation beaucoup plus globale qui, au bout du compte, coûtera moins cher aux particuliers.
Par exemple, le projet de rénovation des fenêtres, on peut en même temps changer le chauffage.
Exactement.
C'est
exactement, parce que en fait, les aides seront beaucoup plus favorables si
on cumule plusieurs choses.
Voilà, tout à fait.
Mais ce bureau, pour l'instant, n'est pas ouvert sur l'île-Dieu.
Non. Mais par contre, il y a déjà des permanences avec Défi Famille, Vendée Énergie. Mm-hmm. Donc c'est Pierre Corsi.
Défi Énergie Positive.
Ouais, l'association Élise, voilà, ouais.
Hein, l'association Élise, qui est là régulièrement, qui rencontre des gens. Et à l'occasion d'ailleurs de de l'étude qui a été faite là pour cette plateforme, un certain nombre de logements ont été déjà visités grâce au CCAS, parce que le CCAS est aussi dans le coup, parce que l'idée en fait, c'est de rénover les logements anciens, souvent de personnes âgées, avec des moyens financiers réduits.
On peut dire faibles. Oui.
Faible,
hein. C'est lutter un peu aussi contre la précarité énergétique, parce qu'elle touche également les lieux.
Ce bureau unique pour la rénovation va être ouvert quand ? Est-ce qu'on a une date pour l'instant ?
Non, il n'y a pas de date.
Non, il n'y a pas de date.
Quand on regarde, quand on fait ce qu'on appelle un
rétro-planning... Non, mais il sera ouvert alors ?
Il sera ouvert. On peut estimer que, allez, soyons larges, fin 2018, à l'automne 2018, on peut espérer qu'il soit ouvert, oui.
Il reste beaucoup de travail tout de même, avant l'ouverture.
Bah, oui, enfin, si là en même temps, il y a des phases de validation de l'étude qui sont en cours... après, bon, il y a un deuxième appel d'offres qui va être, suite à cette étude, fait pour dire, bon, bah, qui va être recruté pour quelle structure va gérer, en fait, cette plateforme. Donc, on est plutôt dans un calendrier quand même assez restreint. Je pense que fin 2018, la plateforme sera opérationnelle. Enfin, c'est notre
souhait. L'île-Dieu.
Sur l'île-Dieu, bien évidemment.
Et on retrouve toutes ces informations dans le bulletin hiver numéro 45 de l'association.
Et puis, auprès de Samuel Le Goff, au pôle économique de l'île-Dieu.
Toujours dans le cadre des rénovations de l'habitat sur l'île-Dieu, des rencontres ont eu lieu entre professionnels et particuliers le vendredi 20 et le samedi 21 octobre. Quelles sont vos conclusions de ces rencontres ?
Alors là, il y a eu deux choses. Il y a eu d'abord une rencontre le 20 au casino.
Entre professionnels.
Avec les professionnels. Et là, surprise, on a eu plus de 24 entreprises différentes. Alors des entreprises du bâtiment, les banques, les agents immobiliers, architectes aussi, donc qui étaient là et leur a été présenté.
Pour expliquer ou pour connaître les aides que les particuliers ont le droit pour essayer de...
Non, ce n'est pas pour connaître les aides. On l'a évoqué, mais l'objectif, c'était surtout de présenter la plateforme et l'intérêt qu'eux pouvaient avoir à être dans la plateforme. Et de fait, ils ont été très, très intéressés parce que leur gros problème pour les entreprises, c'est le temps passé à accompagner les particuliers à monter les dossiers, chercher les aides,
etc. C'est pour ça que l'association Élise de La Roche-sur-Yon est là.
Voilà.
Et Pierre Gorsic.
Et voilà, tout à fait. Donc ça c'est vraiment... Alors ça, c'était la première rencontre.
C'était le vendredi 20 octobre.
Il nous a semblé aussi dans le groupe bâtiment qu'il fallait faire de la pédagogie auprès des particuliers.
Du grand public.
Du grand public, c'est-à-dire leur expliquer la plateforme, etc. Donc on a fait une permanence dans le hall... De Super U, enfin bon, c'était hyper sympathique, un grand merci donc à Super U pour cela. On a vu énormément de gens qui sont venus se renseigner, et entre autres des personnes qui ont dit « bah oui, moi j'aimerais bien, mais vous comprenez… »
Ça coûte cher.
Ça coûte cher, et puis on n'est pas sûr des aides, et puis est-ce que ça va durer, etc. Donc ça a été un moment d'échange très très propice pour lancer cette plateforme.
Quelle question revenait le plus souvent ?
C'est est-ce que vous êtes sûr qu'on aura les aides, quoi, hein. C'était les aspects financiers, on va dire. Hein. Et puis, la peur de se lancer dans des travaux que les personnes ne pourraient pas maîtriser. Quoi.
C'est vrai, c'est des vastes travaux et ça coûte cher.
Ben, dans certains cas, oui. Dans certains cas, ça peut coûter très très cher. Puis souvent, on ne fait pas les bons travaux. Pierre Gorsi et puis l'équipe qui nous accompagne pourraient en parler mieux que moi, mais parfois, c'est pas de remplacer les fenêtres qui est urgent.
Non, vaut mieux travailler sur
la clôture,
le toit.
Voilà, des choses comme ça.
L'isolation.
Voilà.
Autre article à découvrir, le projet de parc photovoltaïque va-t-il voir le jour à la pointe des Corbeaux sur le site de l'ancienne déchetterie sur l'île-Dieu ?
Oui, alors...
Vaste question, à première vue.
Vaste question. Ah. Alors, dans notre revue, le choix qu'on a fait, c'est de reproduire in extenso avec son accord la lettre que le maire a adressée le 19 octobre au ministre de la transition écologique et solidaire Nicolas Hulot. De fait, parce que nous depuis 2008, lorsqu'il y a eu la fermeture du centre des Corbeaux, notre association a adhéré à l'idée d'établir sur ce site un parc photovoltaïque dans le cadre de la perspective d'une autonomie énergétique sur les lieux.
Et d'île en transition.
Et d'île en transition, bien évidemment, dans la mesure où on savait déjà qu'un site de ce type serait neutralisé pendant de nombreuses années. Mmh. Là, on sait que c'est au moins 30 ans où le site est neutralisé. Pour des raisons administratives, juridiques, liées à Natura 2000, liées, etc., etc.
Aux dernières nouvelles, c'était pas possible.
C'était pas possible. Aujourd'hui, on pourrait presque dire que juridiquement, l'installation d'un parc photovoltaïque n'est pas favorable.
C'est pas possible.
En même temps, nous savons par des expériences qui se sont déroulées ailleurs que il y a des dérogations sur des territoires très particuliers.
Et par exemple, les îles.
Bah, les îles et notre les montagnes aussi.
En montagne
aussi. Et qu'il est possible qu'il y ait une décision particulière qui soit prise. Donc, la lettre qu'a fait le maire est très, très bien documentée, bien charpentée. Et j'invite tout le monde à en prendre connaissance et puis venir nous rejoindre pour défendre cette idée. Parce que plus on sera nombreux à défendre cette idée d'un parc photovoltaïque sur les lieux, plus on a peut-être des chances de faire bouger un peu les choses du côté de l'administration centrale.
Pour le moment, pas de retour sur cette lettre.
Officiellement, non.
Officiellement, non.
Non, voilà, on va dire ça plutôt comme ça, oui.
L'association est-elle en phase toujours avec l'installation du parc éolien entre l'Île-Dieu et Noirmoutier?
Tu pourrais préciser ta question, être en phase?
Être en phase, est-ce que vous êtes toujours d'accord à l'installation de ce parc éolien?
Alors, oui.
Oui.
Oui, oui, on l'a été dès le départ, mm-hmm. On l'est. Par contre, on est extrêmement vigilant.
Vigilant sur quel point?
Sur un certain. Bon, par exemple, sur le centre des équipements de maintenance, notre association était complètement défavorable à ce que ça s'installe qu'est du Canada. Mm-hmm. Bon, la solution qui est prise là et que l'on peut lire dans le à la criée est beaucoup plus jouable pour des tas de raisons. Bon, voilà. Nous, par ailleurs, on estime qu'un port, c'est un lieu de travail. Donc, mm-hmm. Il faut que, oui, ce port continue à vivre. Sur le parc éolien, on est un certain nombre dans notre association à suivre ça de près.
Vos plus grandes craintes?
Les craintes seraient d'abord qu'il ne se fasse pas. Ça, c'est une crainte certaine. Deux, c'est d'être toujours obligé et cela peut présenter un aspect intéressant, mais c'est un peu des fois difficile, de face aux arguments des antis, comme sur les anodes sacrificielles là, qu'on a eues. Nous, sur cette question des anodes, on a conduit une propre étude mm-hmm. et qui a montré qu'en fin de compte...
Quelles sont vos conclusions?
Nos conclusions, c'est d'abord qu'il y en a naturellement dans la mer, puisque avec les phosphates, il y a de l'aluminium. Deux, qu'il faudrait un pH démesuré pour que c'est une action vraiment négative sur la mer et sur les poissons. Mais en même temps, la question qui était posée, et c'est dommage qu'elle ait été mal posée, parce que nous, du coup, on s'en est ressaisi et vis-à-vis de du consortium, on pose des questions en disant, mais est-ce que il existe aujourd'hui des technologies pour récupérer ces anodes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu technique, mais là, on pousse un peu, on interroge la société là-dessus.
Que vous dit le consortium?
Il apporte des réponses factuelles à fur et à mesure, mais c'est vrai, faut dire les choses telles que nous, on les ressent, il faut qu'on aille chercher les réponses. Il faut toujours être vigilant. C'est pas forcément évident. On va avoir une information très générale, mais sur des points précis.
Des points vraiment très précis.
Voilà, nous, on a été agréablement surpris de voir le projet de loi pour que sur des gros chantiers comme ça, qui durent un certain temps, la technologie puisse s'adapter. C'est-à-dire, on sait que quand les éoliennes vont se mettre en place, peut-être que la technologie des éoliennes aura avancé. Elle aura avancé. Et plutôt que de refaire un dossier complet, l'intérêt, c'est qu'ils puissent adapter ces nouvelles technologies. Et nous, on est assez vigilants sur, justement, ces technologies à venir.
Pour que les technologies d'installation ne soient pas obsolètes.
Eh bien, voilà, c'est tout à fait.
Autre article à découvrir, un entretien avec le docteur Larvor de l'Île-Dieu. Qu'apprenons-nous dans cet article, Sandrine ?
En fait, c'était un entretien avec une de nos adhérentes qui elle-même était médecin, donc elle voulait un peu rencontrer l'équipe de l'Île-Dieu. Et de fait de l'insularité, c'est pas facile d'organiser la mission de santé sur l'île, mais a priori, il y a quand même une bonne synergie entre l'hôpital de Challans.
Entre les différents services.
Entre les différents services. Il y a de plus en plus de spécialistes qui viennent sur l'Île-Dieu aussi. Bon, ce n'est pas encore la panacée, hein, mais bon, c'est des ophtalmologistes, gynéco, psychiatrie. Enfin, voilà, le cardiologue. Et puis, bon, il y a l'air d'avoir des jeunes médecins aussi qui veulent s'installer sur l'Île-Dieu. Donc, c'est plutôt positif. Et puis la dialyse aussi qui fonctionne, donc c'est plus confortable. Oui, évidemment, il y a encore beaucoup de progrès à faire.
Quel progrès à faire, Sandrine ?
Peut-être qu'il y ait plus de spécialistes qui viennent sur l'île-lieu, mais c'est toujours le même problème. Il faut avoir la structure qui puisse les accueillir et puis ensuite les structures qui puissent accueillir donc le métier en lui-même, mais aussi les familles qui viendraient s'installer sur l'île-lieu. Mais il faut dire qu'on a quand même des moyens de liaison avec le continent qui sont quand même plus modernes, entre guillemets. Donc, puis je pense que ça fait partie de l'insularité. Les personnes qui vivent là...
Connaissent déjà la problématique,
mais il faut voir que les médecins sont très bien formés aux urgences. Il y a vraiment, avec l'hélicoptère, le SAMU aussi, ça se passe pour le mieux. Donc voilà.
Luc.
Oui, je crois que l'article montre une chose, c'est que non, l'île-Dieu n'est pas un désert médical. C'est un peu le titre de notre article.
C'est le titre de l'article. Oui.
Faut reconnaître que on est quand même au niveau médecine relativement bien couvert par rapport à d'autres zones rurales sur le continent. Hein, ça
Les zones rurales sur le continent, il y a juste à prendre la voiture.
Oui, alors voilà. Et c'est plus sur les problèmes, on va dire, paramédicaux qu'il y a vraiment, il y aurait du travail à faire. Prenons un seul exemple, les orthophonistes. On a un déficit, il y a une grosse demande en termes d'orthophonie
sur
les lieux, pour les enfants mais aussi pour les adultes. Et on a quand même une faiblesse de ce côté-là. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Donc ça veut dire qu'on n'est pas un désert médical, mais en même temps, il ne faut pas lâcher. Voilà.
À découvrir dans ce bulletin hiver 2018. Un article également sur l'eau en pages 10 et 11. Le but, c'est d'expliquer pourquoi l'importance de l'entretien des fossés privés ou publics, Sandrine ?
Oui. Déjà, c'est aussi être conscient
de l'importance
de l'eau. Hein, c'est vital, c'est précieux sur tous les territoires. C'est vrai qu'on est entouré par l'océan, donc on se dit oui, l'eau, il y en a, mais l'eau douce, c'est un enjeu crucial pour tous les habitants de la planète. Et l'eau, c'est ce qui va nous permettre déjà d'avoir une agriculture qui fonctionne correctement, hein, faut le savoir. Et justement, dans le cadre du projet Terre Fertile, on s'est rendu compte, il y a l'accès au foncier, mais il y a aussi le réseau hydrologique. Est-ce qu'il est en bonne santé ?
Et on se rend compte. Est-il en bonne santé ?
Non, pas vraiment. Comme partout en France, et peut-être dans le monde, malheureusement, c'est pour ça que les zones humides, il faut les protéger, c'est très important. Parce qu'elle régule le trop-plein d'eau quand il pleut et redonne de l'humidité quand la saison est sèche. Donc c'est un rôle tampon écologique primordial, on l'oublie. Donc un fossé mal entretenu, ça peut avoir des conséquences, parce que tout est lié en fait. Tous ces petits fossés, ces petits cours d'eau, ils communiquent entre eux. Et s'il y a un bouchon ou si ça ne fonctionne pas, ça peut mettre en péril l'équilibre fragile de ce réseau. Donc déjà, avoir conscience de ça. Et ensuite, en tant que citoyen, on a quelques devoirs pour entretenir son fossé. Ça facilite aussi le travail de la municipalité. Et puis, on espère bientôt la municipalité remettre un peu en valeur son patrimoine de marais, la Guerche, le marais salé. Du coup, ces marais, ils communiquent entre eux. Donc, il faut qu'ils soient en bonne santé pour qu'ils refassent leur travail de tampon écologique. Et pourquoi pas retrouver parce que le gros problème aussi à l'Île-Dieu en France, c'est qu'avec la déprise agricole, le fait qu'il n'y ait plus d'animaux ou de moins en moins d'agriculteurs qui travaillent la terre, cette terre, elle est moins entretenue. Donc, du coup, le réseau hydrologique en prend un coup. Donc, peut-être imaginer à nouveau d'autres activités agricoles qui permettraient de maintenir ce système hydrologique en bonne santé. Donc oui, l'eau, c'est la vie, prenons-en soin.
C'est un vaste sujet tout de même, c'est posé.
Oui, c'est un vaste sujet, mais l'eau, bien sûr, mais si, c'est toujours la même chose, ça paraît immense, énorme, mais si chacun fait sa part... si chacun est conscient. Et puis en plus, il y a plein de solutions. On peut s'entraider. On n'est pas tout seul dans son coin. C'est aussi le... Voilà. Et puis, moi, je suis très contente parce qu'il y a quelques jours, au Marais Salé, j'ai vu un oiseau. C'est la première fois qu'on le voyait à l'île-dieu. C'est un ibis falcinelle. Donc, voilà, c'est aussi des réserves de biodiversité. Ces marais, c'est un endroit où les oiseaux peuvent se reposer pendant l'immigration. Donc, on peut aussi découvrir d'autres petits trésors. Donc, voilà, c'est tout est lié, en fait. La vie, mais l'eau est vraiment vitale pour l'île et pour le monde. Voilà.
À découvrir en page 10 et 11 de ce bulletin. On parle aussi valorisation des déchets dans ce bulletin.
Ah oui, hein, c'est un grand chantier de la municipalité, mais encore une fois, c'est le nôtre aussi. Je parle un peu des déchets verts. J'ai eu la chance d'assister à une formation avec quelqu'un qui était assez expert en la matière verte, en l'occurrence. Donc, on a tous l'été, enfin au beau jour, on voit plein de voitures, des camionnettes, des remorques qui vont mettre leurs déchets verts à la déchetterie. Alors, le déchet, ça peut devenir une ressource. C'est pas forcément quelque chose qui est à jeter de façon comme ça dédaigneuse. Allez, on s'en débarrasse. Faut savoir que tous nos déchets ils repartent sur le continent. Hein. Ils restent pas à la déchetterie. Donc, faut aussi qu'on soit conscient de ça. Et les déchets verts, mais j'ai envie de dire, c'est presque facile de les recycler. Parce que, en fait, quand la terre, pour qu'elle soit vivante, encore une fois, pour qu'elle vous donne des beaux légumes ou des belles plantes, il faut qu'elle soit vivante. Donc, le déchet vert, ce que les tontes, les feuilles mortes et tout, les branches, ça réamende la terre, ça l'alimente à nouveau. Il faut qu'il y ait le cycle de la vie qui se reproduise. Et bien, vous avez soit du mulching, vous faire du broyat, et puis vous faire des haies de benge. Alors, ça, on l'explique dans l'article. Enfin, il y a plein de solutions. Et entre autres, le compost aussi. En fait, avec le terreau, vous avez, c'est magique, c'est de l'or noir, c'est ce que vous redonnez à la terre pour que l'année d'après, elle soit à nouveau vivante et puisse vous donner de bons légumes, de belles fleurs et de beaux arbres. Donc, il y a plein de solutions, en fait.
À découvrir dans ce bulletin, un article aussi sur l'extraction du sable dans l'estuaire de la Loire.
Oui, alors...
Rapidement, parce que le temps nous est imparti. Oui,
tout à fait. J'en profite pour faire un point d'introduction. Dans nos bulletins, régulièrement, on ouvre nos colonnes à des associations qui œuvrent pour le développement durable sur l'île-Dieu. Donc, c'est le cas dans ce bulletin. Hein, donc, il y a un certain nombre d'articles. Et je fais un peu un appel en disant, s'il y a des associations qui souhaitent faire passer des articles dans notre bulletin, deux fois par an, cela est tout à fait possible. Alors, sur le problème du granulat, pour être assez rapide sur le sujet, en fait, il y a une association qui s'est constituée, qui s'appelle Peuple des Dunes en Pays de la Loire, hein, qui est présidée par François Duliège, qui suit de très très près ce dossier, parce que de fait, la question des granulats, ça se voit pas comme ceci, mais sur le long terme, un impact est énorme sur le long terme. Donc, en fait, l'article qui est présenté là et qui est signé par François Duliège, justement, montre en quoi les extractions représentent un risque pour nos côtes, y compris pour l'île-Dieu, même si certains trouvent qu'à l'île-Dieu, on est protégé. Sur le long terme, on n'est pas forcément protégé.
À découvrir dans ce
donc
bulletin.
Donc, on peut se mobiliser là-dessus aussi. Ouais, si des personnes veulent se mobiliser, elles peuvent contacter le président de l'association. Ouais.
Les peuples des dunes, c'est bien ça,
oui, et des pays de la Loire, oui.
Un point aussi sur Terre Fertile.
Alors, Terre Fertile, c'est un dossier que régulièrement on évoque à cette antenne. Ce dossier continue, le défrichage se poursuit. Il y a des projets qui sont en cours, mais surtout, parallèlement, et je dirais à cette question du défrichage, a été fait et est en cours un diagnostic alimentaire sur le circuit court, dont vous pourrez lire les premières conclusions dans notre...
bulletin article. Numéro 45, hiver voilà. 2018.
Tout à fait.
Rapidement, j'ai l'impression que le verger patrimonial a moins d'activité et moins d'animation. Êtes-vous d'accord, Sandrine ou Luc?
Oui et non. C'est-à-dire que on voit bien que...
Oui et non.
Bah,
oui.
La terre dort un peu l'hiver.
C'est-à-dire, oui, parce qu'on est l'hiver.
Il va y avoir des greffes bientôt au printemps.
Il y a moins d'activité. Et puis non, parce que il continue à être entretenu. Il va y avoir ce que évoquait Sandrine, les grèves dans peu de temps. Oui, on est dans une période dans la saisonnalité où il y a moins d'activité de fait sur le verger. Mais de fait, il est important de remobiliser régulièrement les gens sur cette chance que nous avons d'avoir ce verger.
Car le verger recherche des bénévoles,
tout le temps.
Qui contacter? Les croqueurs de pommes?
Les croqueurs de pommes, Patrick Levinville.
Vous avez l'adresse email sur la fin de l'article, en fait.
Sandrine, on finit avec toi avec un billet nature. Que nous proposes-tu dans ce bulletin?
C'était un peu Madeleine de Proust. C'était les quatre saisons, se dire que c'est l'hiver. Et c'est vrai que quand on... quand on est sur l'île, on aime bien la belle saison, mais moi je voulais parler aussi des petits trésors qu'on trouve à l'automne, l'hiver, bon forcément l'été, au printemps. Donc,
quel trésor, Sandrine? Je suis curieux.
T'es curieux, mais il va falloir lire l'article, te laisser emporter par l'article. Bah, en fait, c'est surtout des couleurs, des parfums, des paysages qui changent, l'arrivée d'un oiseau, une plante qui se met à pousser. En fait, c'est toutes ces choses qui nous font plaisir, qui nous font nous sentir vivants, de voir que ce cycle de la vie, il continue et qui nous apporte son lot de surprises ou pas. C'est toujours la même chose, mais en fait, on est toujours joyeux. On a cette chance d'être sur l'île, d'être au large et d'avoir des petites scénettes du quotidien comme ça qui nous remplissent. Enfin, personnellement, m'enrichit beaucoup.
Ça s'entend, ça en
rit. Voilà. Donc oui, on a de la chance, on habite sur l'île à l'année et toute l'année, il y a plein de choses à découvrir, à ressentir, à toucher, à voir. Et voilà, c'est ces petits trésors que je voulais partager avec vous dans ce bulletin.
Luc ou Sandrine, où retrouver le bulletin de l'association Yeux Demain ?
Eh bien, à la maison de la presse.
Simplement.
Principalement. Oui. Alors, il coûte 2 euros. Puisqu'il est en partie financé par nos adhérents. Et donc, on a mis en vente les autres numéros à 2 euros.
À la maison de la presse.
À la maison de la presse. Et puis, bien sûr, nous serions très contents si vous deveniez adhérent.
Comment adhérer, Sandrine ?
Comment adhérer ? Vous avez un bulletin à l'intérieur
du bulletin.
Voilà, super. Un bulletin d'adhésion dans le bulletin à lire. Sinon, vous pouvez nous contacter. On peut le faire aussi par Internet via Hello Asso.
Voilà.
Voilà.
Oui, Luc.
Oui. On a adopté
Facebook,
les nouvelles technologies, donc on peut aujourd'hui flasher le QR code et on arrive tout de suite sur Allo Asso, et d'Allo Asso, on peut adhérer directement par Internet.
Mais dites-moi, l'association Yeux Demain est moderne.
Mais tu en doutais, Roland, mais comme la team est faible, comme toi, bien sûr. Où est-ce que tu peux flasher ton QR code, Roland ?
Nous sommes très jeunes. Aujourd'hui, on a grosso modo une tranche d'âge qui va de 28 ans à 90 ans.
C'est énorme,
ouais,
tout de même.
Bravo.
Super. Et les jeunes ne sont pas forcément ceux qu'on croit.
Voilà. Et venez adhérer, c'est aussi... venir proposer vos idées, participer à l'écriture d'articles dans le bulletin, essayer de réfléchir à des choses. Donc venez, on serait super contents de partager avec nous cette belle expérience de Yeux Demain.
Merci Sandrine Desmarais. On rappelle, tu es la vice-présidente de l'association. Et merci Luc Pasquier. À très bientôt.
À très bientôt. Au revoir.